Onde noire, suite et fin. Et puisqu'on est dans le noir...
Fin pour aujourd'hui.
Bien sûr. Je vais vous donner une petite news à propos d'une collection dont on vous parle régulièrement. La collection Souris Noire. Et d'ailleurs, son aîné, Rat Noir. Souris Noire pour les plus jeunes et Rat Noir pour les adolescents. Chez les éditions Cirrose, donc la collection Polar pour les jeunes, change de look. Voilà, des nouvelles couvertures. Et si je vous en parle, c'est pas tellement la nouvelle des nouvelles couvertures, c'est plutôt que à cette occasion ressortent parmi les meilleurs de cette collection, en particulier Hippon de Jean-Hugo Pell, La disparue de la 6e B de Stéphanie Benson, on a aussi La dernière danse des Maoris de Caryl Ferré, et enfin At Last But Not Least. Excuse-moi. Donc voilà, Il va venir de Marcus Malte. Voilà. Donc allez voir chez votre libraire, il y a vraiment de très 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 bons romans. Sans oublier chez Rat Noir, Shooting Star de Stéphanie Benson et Garde à vie de Bennett Mann. Ça, c'est un grand roman pour ados. Jacques, on va partir en Asie, au Japon.
Au Japon.
Allez,
pas de rapport avec l'actualité.
Mais non,
on aurait pu en parler dans la séquence lire pas cher parce que c'est une réédition en poche, mais en fait je l'avais pas encore lu à l'époque, donc c'est pour ça qu'on en parle à ce moment-là. Donc c'est un roman d'un monsieur qui s'appelle Ishida Hira. Le titre du livre c'est Ikebukuro Westgate Park 2.
C'est
paru aux éditions Piquier dans la collection de poche, donc ça vaut 7 euros, et c'est traduit du japonais par Madame Anne Bayer Sakai, qui doit probablement être mariée avec un japonais. Donc, pour faire simple, on dit EWGP2 plutôt que Ikebukuro Westgate partout parce que c'est un peu compliqué.
Ça sonne vachement japonais, ça. Voilà.
Ben en fait, donc, ce roman se passe à Tokyo, dans un quartier plutôt pauvre, celui d'Ikebukuro. Le héros, c'est pas un yakuza, ni un adepte de sport de combat. En fait, c'est un jeune légumier d'une petite rue du quartier. Il s'appelle Makoto. Et quand il ne vend pas des fruits et des légumes avec sa maman, il est, selon ses propres dires, solutionneur d'embrouilles.
C'est joli, ça.
En anglais, dans une série américaine, on dirait troubleshooter. En fait, il supporte pas de voir les plus faibles se faire emmerder, donc il intervient. Et puis, comme il commence à avoir une réputation, on vient le consulter pour des petits problèmes qu'il résolve.
Bravo. Ah, c'est vrai que le verbe résoudre. Hein.
Voilà, résoudre. Donc, le lieu central du quartier, en fait, c'est le square. Et c'est l'endroit le plus paisible, et c'est là que débutent la plupart de ses interventions. Alors, le roman est en 4 parties, 4 histoires qui peuvent se lire indépendamment et qui ont malgré tout un certain ordre chronologique.
Un lien,
voilà. Donc, ça commence par... il voit un jeune gamin qui semble abandonné à lui-même. Donc, il va s'intéresser à lui parce qu'il a l'air d'avoir des tocs... Donc des actions un peu bizarres, donc il va le voir. En fait, il s'avère que c'est le fils d'un parrain local. Il y a l'épisode d'après, c'est une fillette dont la maman prostituée donnera à Makoto quelques émois et aussi beaucoup de fils à retordre. Donc je disais, c'est 4 épisodes qui nous racontent en fait la vie du quartier, d'une banlieue pas très chic de Tokyo, qui est surtout entouré de Love Hotel, où il y a des rues, où il y a le deal, enfin, vous voyez, c'est un peu l'endroit. Alors Makoto, lui, c'est pas un adepte de la violence. Bon, enfin, quand il faut, il sait s'y prendre. Et il appartient à aucune bande, il y en a plusieurs qui règnent sur le quartier, dont celle des G-Boys, dont le patron, le chef, voudrait bien que Makoto rentre dans la bande, mais lui, il veut absolument pas s'affilier, ce qui lui permet en fait d'avoir pas mal de...
De faire toujours l'intermédiaire,
d'avoir pas mal d'entre-gens dans tout le milieu. Alors, c'est assez marrant parce que le rythme du roman est assez lent. Il y a une certaine... Makoto a plutôt une certaine nonchalance, hein, c'est un vendeur de légumes, hein, c'est pas un karatéka. Et en même temps, il y a une certaine... c'est trépidant.
C'est pas le concombre masqué, quoi.
Non, c'est pas le concombre masqué. Non, mais alors c'est marrant parce que c'est nonchalant et trépidant en même temps, donc ce qui est plutôt étonnant. Et ce Makoto, quand même, quand il fait rien, lui, il écoute de la musique. Et pas n'importe laquelle, parce que là, dans celui-là, il écoute Steve Reich, donc c'est de la musique plutôt contemporaine. Concerto pour 18 musiciens, c'est très très beau. Ou alors Handel, du baroque. Et alors, il est capable d'écouter 4-5 fois le CD de suite.
Faudra lui écrire qu'il y a un orchestre qui joue des légumes. Peut-être oui, ça pourrait l'intéresser aussi.
C'est donc un jeune homme qui est plutôt intéressant. Quant au lecteur, lui, en fait, il découvre à travers ce roman un Japon qui est un peu différent des mangas et des films qui nous arrivent par ici. Et on se rend compte finalement que, d'abord, c'est une société qui est très très américanisée. L'auteur, par exemple, ou son héros, je ne sais pas, est très très impressionné par les marques. Vélo, voiture, vêtements, chaîne de fast-food. Dès qu'il se lance dans une description, il cite la marque. D'un côté, c'est pas mal, parce qu'en plus, ça nous permet de situer exactement la chose, bien que ce soit à l'autre bout du monde. Et on se rend compte, finalement, peut-être, est-ce un des effets pervers, et pas le seul d'ailleurs, de la mondialisation, c'est que finalement, d'un continent à l'autre, d'une banlieue à l'autre bout du monde,
on va retrouver la même galerie marchande.
On recourt les mêmes galeries marchandes, et on retrouve en fait la même banlieue, en fait, avec les mêmes problèmes. Je vous ai dit, c'était Westgate Park 2. En fait, donc, il apparaissait dans un premier tome qui était aussi paru chez Piquet, qui est réédité en poche.
Il faut dire que les éditions Philippe Piquet sont le spécialiste de la littérature asiatique.
Voilà. Et il y a un troisième qui paraît en grand format incessamment. Et ben, quand on a lu même si on n'a pas lu le premier, quand on tombe sur le deuxième, on ne peut que envisager d'aller acheter le troisième tellement c'est vraiment passionnant. Alors pour ceux qui seront intéressés, il existe aussi une version manga qui a été adaptée de ces romans, qu'on trouve en français, en dessin animé, et aussi un peu plus difficile à trouver, mais sur internet on y arrive, ou sur dans des bibliothèques ou des vieux vidéoclubs, il y a eu une série qui est parue en DVD qui a été adaptée de ces romans, parce que celui-là il date quand même de début des années 2000. D'ailleurs, ça se voit
Il y a moins de téléphones portables.
Il y a beaucoup de téléphones portables quand même. On est au Japon, mais dans les objets qui parlent, donc ils sont datés. Je voulais juste faire une petite lecture du début de la troisième partie, qui est la plus étrange. Il commence à circuler dans le quartier d'Ikeburuko des billets, mais qui sont pas des yens.
Tu ne parles pas des yens des animaux.
Non, des yens. Ben oui, ah c'est oui. Les yens, c'est les billets. Au Japon, c'est des yens.
Oui, bien sûr, la monnaie locale.
Voilà, et donc c'est un peu bizarre. Et donc évidemment, Makoto, il va s'intéresser à ça. Et donc juste au début, c'est à la mi-mars, alors que le froid devenait moins cuisant, que j'ai vu un de ces billets pour la première fois. Les rayons de soleil qui tombaient entre les immeubles prenaient une inclinaison qui leur permettait de sécher et d'éclairer les ruelles aux odeurs de moisi. Les cerisiers pressés de Westgate Park commençaient déjà à éclore leurs premiers bourgeons, répandant sur les pavés la même odeur de fleurs que les WC des grands magasins. Annonce de printemps, même dans ce square en plein centre-ville, où l'air était chargé de pollen, de cryptomères et de particules de gasoil. Et là, il va s'intéresser à la provenance des billets.
Voilà, donc un exemple de polar asiatique. Il n'y en a pas tant que ça qui nous arrive. Même si,
du Japon, il y a un peu de chinois, du Japon, ouais. pas tant que ça.
Il faudrait fouiller un petit peu. Voilà, donc chez Philippe Piquet, on va redire le nom de l'auteur et du traducteur.
Ishida Hira, donc le titre c'est Ikebukuro Westgate Park 2, et la traductrice c'est Anne Boyard Sakai.
Voilà, un petit peu de musique maintenant.
Un petit peu de musique, donc j'espère que ça ne va pas continuer, mais encore un hommage à un chanteur, guitariste disparu récemment. Calvin Russell, le morceau s'appelle Crossroad, mais ce n'est pas celui de Robert Johnson, c'est le sien. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently, for fear of a mistake. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. They all look the same.
I've traveled many roads, and not all of them were good. The foolish ones taught more to me than the wise ones ever could. One path led to sacrifice, one path led to shame, one path led to freedom. They all looked the same. There were roads I never traveled, there were turns I did not take, there were mysteries I could not unravel. Leaving you was my only mistake.
Et voilà un petit morceau de blues, Calvin Russell, voilà, avec...
Il n'aura plus besoin de se poser de la question de quelle route il va prendre quand il arrive au croisement.
Et voilà. Donc, on va enchaîner, et sans enchaînement, justement. Donc, on va accueillir Frédéric Prieux. Frédéric Prieux, bonsoir.
Bonsoir, Corinne.
Pour une chronique qui devient régulière, et on en est ravis. On va donc parler de bande dessinée, ou tout au moins d'albums illustrés. Et là, on va partir dans quelque chose qui, quand même, on les suit depuis longtemps, ceux-là.
Oui. Longtemps, c'est le mot, puisque ça fait depuis 1938. Hein,
oh, je suis pas née, hein. Moi, je pensais que c'était des années 50, vous voyez.
Oh là là. Ben, alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc, on parle de Tiche et Tondu. Donc, ça a été créé en 38, mais c'est les années 50, vous avez raison, chère Corinne, puisque c'est à ce moment que Will a pris en main les destinées de la série. Donc, bien écoutez, ce que après la première intervention qui parlait de bande dessinée comics américains, là, je vous emmène du côté de la BD franco-belge pour ce qui est une réédition en intégrale depuis 2007 de la série Tiche et Tondu. Et Dupuis a fait le choix d'une réédition thématique et non chronologique, en regroupant les aventures par scénariste. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, ce sont des albums de 3 ou 4 des tomes de 3 ou 4 albums qui sont tous précédés d'une longue introduction très richement illustrée, et c'est vraiment de l'excellent travail de réédition. Voilà. Donc là, je vous parle de celui qui vient de sortir il y a une semaine, qui s'appelle Innombrables Menaces, et qui contient 4 albums et 3 histoires courtes. Alors, je vais vous résumer rapidement les 4 albums, parce que ça vaut quand même le coup. Alors, le premier s'appelle Métamorphose. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une histoire où une météorite est tombée en Afrique, et qui provoque des mutations sur les bêtes de la savane, qui deviennent monstrueuses. Mais on s'en rend pas compte tout de suite, et c'est dans le zoo où elles ont été vendues que le phénomène se déclenche, au bout d'un certain temps. Alors, évidemment, les hommes qui ont approché la météorite sont aussi touchés par le phénomène, et ils deviennent à leur tour des monstres sanguinaires. Et Tiche et Tondu vont intervenir pour que tout rentre dans l'ordre. Alors, j'ai oublié de dire, Tiche, c'est le chauve,
oui,
et Tondu, c'est le barbu hirsute. Hein, c'est logique.
C'est très logique. Voilà. Donc, on connaît quelques-uns comme ça.
Ah, sosie pas loin peut-être. Donc oui. Cette aventure, c'est la première scénarisée par Stéphane Desberg, parce que j'ai oublié de vous dire quand même que c'était Stéphane Desberg le scénariste pour ces histoires. Elle a un petit côté Jekyll et Hyde qui est pas désagréable. Bon,
c'est parmi les très anciennes ou c'est
Alors celle-ci est de 80. Alors oui, je parlais de réédition non chronologique. Celle-ci est de 79. Voilà. Les 4 qui sont dans cet album, c'est 79 à 82, 83. D'accord. Voilà. Et donc voilà, la deuxième s'appelle Le Sanctuaire oublié. Elle se déroule en Bretagne, elle commence en Bretagne, donc j'ai essayé de la reconnaître, j'ai pas trop vu où ça était situé, mais ça met en scène un groupe de chasseurs de trésors qui s'appelle Paradise Hunters. On aimait beaucoup les noms anglais, fut un temps pour les méchants, parce que là ce sont les méchants, et ils sont menés par une femme à poigne de fer qui s'appelle Candice, qui emploie tous les moyens, y compris la séduction du pauvre Tiff, qui se laisse facilement avoir par les femmes,
Ça doit être pour ça d'ailleurs qu'il est chauve maintenant.
Exactement. Il
s'est fait des cheveux, quoi.
De cheveux, il s'est fait beaucoup de cheveux, l'habitif. Donc là, il s'agissait de remettre la main sur un stock d'or caché dans la région en Bretagne. Alors, une fois que le stock est récupéré, ce qui se fait pendant toute la moitié de l'album, il est transféré au Yucatan, alors du côté du Pérou, on va dire, où le stock est assemblé pour constituer la porte d'un sanctuaire qui ouvre vers les légendaires cités d'or. Alors, donc là, on est en plein fantastique encore avec les civilisations précolombiennes. Alors, c'est une histoire pleine de rebondissements, et à noter que Tondu, donc l'ami hirsute, roule en visa.
C'est pas très précolombien tout ça.
Voilà, et il adore, et il bénit la tenue de route de sa visa. C'est assez amusant parce que ça n'empêchera pas d'être précipité du haut d'une falaise, comme le suggère la couverture de cet album.
Ouais, bah alors, c'est les routes bretonnes qui sont traîtres.
Oui, pas sûr. Oh, ça c'est, elles sont améliorées, les routes bretonnes.
Ah bon.
On découvre de magnifiques panoramas depuis les falaises. Et troisième album, alors là, Échec et Match. Alors là, peut-être que cet album va parler un peu plus à notre ami Jacques, qui est à vos côtés, chère Corinne.
Oui.
Puisque, alors dans cet album, Tiff et Tondu n'ont plus d'argent. Alors c'est pas pour ça que je fais allusion à Jacques, hein. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Aucun rapport. Hein. Ils sont obligés de travailler, et ce qui est impensable pour des héros, hein, on s'en doute. Et Tiff est vite exténué et il va prendre des vacances bien méritées dans le sud. Sauf qu'à peine arrivé dans le sud, il se fait embarquer dans une histoire de voiture commandée à distance par des ordinateurs, et pour aider l'inventeur de ces systèmes informatiques révolutionnaires, il accepte de prendre le volant d'une Formule 1, rien de moins, pour le Grand Prix de Monaco.
Ah, on est loin, voilà. De ta visa, là.
Ouais. Exactement. Et il va se retrouver à piloter cette voiture. Et ils vont, Tiff et Tondu vont se retrouver au cœur d'une affaire avec une espèce de margoulin du sport qui va être sur le route jusqu'à New York. Et l'histoire va se terminer en plein tournoi de tennis international. Alors, pourquoi c'est une aventure sportive. Et là, elle est teintée des avancées technologiques de l'époque. Et celle-là, vous posiez la question, Corinne, de l'époque. On est en 81, et c'est les débuts des PC, et l'informatique reste nimbée d'un certain mystère, pour ne pas dire d'une certaine magie. Il y en a que ça ferait bien rire. Et maintenant, de nos jours, et ce côté nouveau, il est un petit peu daté dans l'album. Par contre, il y a dans cet album un intérêt évident pour le personnage du méchant qui fabrique des sportifs de haut niveau pour les exploiter jusqu'à la corde. Et ça reste assez d'actualité.
Des gens qui trifouillent l'informatique pour faire des choses abominables, ça reste aussi d'actualité.
Ça c'est aussi vrai. Maintenant, ce sont plus des hackers ou autres. Voilà. Et le dernier album, s'appelle Svastika. Je me dépêche parce qu'il me reste beaucoup de temps, mais alors là, c'est Hitler n'est pas mort, c'est tout simple. Il est réfugié en Amérique du Sud, mais à la veille de son 90e anniversaire, il est un peu gâteux. Donc ses partisans ne désespèrent pas de lui faire retrouver sa splendeur passée en lui faisant boire un élixir de jeunesse qu'il faut reconstituer grâce à du venin de serpent. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça permet de...
C'est Tiff et Tondu aussi, hein.
Voilà, c'est Tiff et Tondu, exactement, pour une histoire qui va les conduire des forêts amazoniennes jusqu'à Venise. Alors là, c'est un album complètement échevelé, où Tiff va même aller jouer les étalons au sein d'une tribu amazonienne où tous les mâles sont morts, et il va avoir beaucoup de travail, ce qui est assez curieux dans un album pour la jeunesse. Et ce qui est beaucoup plus curieux et moins évident pour l'époque, c'est le sujet du nazisme qui était abordé directement dans cet album. Et il y a eu une certaine incompréhension parce que, évidemment, ce sont des aventures humoristiques, et faire de l'humour, alors là, un petit peu avec les traits des caractères des juifs qu'on prête, par exemple la cupidité, ça n'est pas passé toujours, et c'est vrai que certains gags ne passeraient pas. Cela dit, ça reste un album vraiment bien construit, et qui a osé quand même remettre mettre en scène les néo-nazis via l'humour, évidemment, ce qui n'est pas toujours évident. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, parce que Tiff se retrouve plongé dans le corps d'un enfant de 10 ans, et c'est toujours assez plaisant de voir des héros rajeunir comme ça d'un coup, d'avoir
ça
des idées scénaristiques
plaisir,
intéressantes. Oui. Alors il y a trois autres petites courts récits.
On va les évoquer parce que là, oui, malheureusement, notre émission est terminée.
Oui.
Donc
on va
rappeler, donc c'est chez les éditions Dupuis.
Dupuis, et on peut toujours lire Tiff et Tondu, ça reste toujours valable parce que les scénarios étaient excellemment tournés. Voilà.
Voilà, donc l'intégrale. C'est le 9e qui vient de reparaître,
exact.
C'est ça ?
9e tome, et puis je vous encourage à lire Tiff et Tondu.
Ben, merci beaucoup Frédéric Prieux, et on vous retrouve sur votre blog bdpolar.blogspot.com. Merci, à la prochaine fois. Au revoir.
À bientôt, au revoir les amis.
Et à tous pour une prochaine émission Polar et Rock à la fois.